Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Books, je vais prendre un petit moment pour vous présenter cette revue. Donc, c'est un magazine qui a été créé en 2009, qui est mensuel et qui, depuis 2015, propose une newsletter quotidienne et gratuite qui permet justement de voir un petit peu les coulisses, on va dire, de Books et de suivre vraiment au fil de l'actualité les articles qu'ils peuvent choisir et en fonction des thématiques, quels sont les journalistes et journaux qu'ils mettent en avant. Donc l'idée de la revue était assez intéressante. Son sous-titre le précise, il est « Les idées changent le monde ». Donc on avait vraiment Books, les idées, le monde, cette connexion entre la France et les pays étrangers, le livre et l'idée qu'il fallait penser. Donc le livre est central dans cette revue parce qu'il en est l'inspiration même. En effet, tous les articles en fait sont soit des extraits de livres publiés à l'étranger, soit des extraits ou des articles commentaires intégraux consacrés à des livres étrangers qui tous vont traiter de l'actualité, que ce soit l'actualité littéraire, l'actualité philosophique, l'actualité politique. Je vais citer Olivier Postel-Vinet qui justifie la revue en disant « Le principal support d'expression des idées les plus construites et les plus originales, c'est le livre. Il permet de s'extraire de l'actualité immédiate pour mieux la comprendre. » Dans cette citation, on a cette idée de distance, justement, de prendre du recul. Et c'est assez intéressant parce que l'alliance du journaliste et du livre crée cette tension-là et cette distance-là. On voit très bien en lisant Books qu'on n'a pas affaire à un journalisme habituel. On est sur des articles de fond. Quand on regarde les dates des articles, là en l'occurrence pour les deux qui concernent les États-Unis, on est sur 2015 et sur des articles qui ont entre pas loin de un an pour notamment celui sur le financement des campagnes présidentielles qui date du mois de juin. Et c'est intéressant de voir, en fait, justement, la notion d'actualité d'un article. Se dire, nous, Français, on lit un article qui a été publié il y a un an aux États-Unis et il résonne, il fait écho à une réflexion qu'on peut se faire, à des choses qu'on peut entendre dans d'autres médias. Et c'est là où je trouve qu'on voit que le pari de Books a été vraiment réussi, c'est de faire du journalisme de fond, de montrer que l'actualité, finalement, peut être une actualité... Oui, vraiment de fond, qui s'inscrit dans la temporalité et qui n'est pas sujette à une journée, un moment, et puis qui le lendemain est balayé par un autre événement. Et c'est montré un petit peu un journalisme finalement qui se faisait comme dans les années, comme dans l'âge d'or du journalisme j'ai envie de dire la première moitié du XXe siècle, où on n'avait pas la rapidité des moyens de communication qu'on a aujourd'hui, et où du coup les journalistes qui étaient envoyés notamment à l'étranger, un Kessel, un Kapuscinski, un Albert Londres, prenaient du temps pour faire un article. Et pourtant, encore aujourd'hui, quand on lit leurs articles qui sont maintenant compilés dans des livres, eh bien, ces articles ont toujours du sens, nous éclairent toujours sur des événements. Et je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que la vertu de Books et l'objectif un petit peu in fine de cette revue, c'est justement de pouvoir proposer des articles qui auront toujours cette intemporalité qui leur donne leur lettre de noblesse et qui nous renvoie à un journaliste qu'on peut regretter, mais qui existe encore, et du coup, on le regrette pas totalement. Books, on a l'idée du titre. On a aussi l'idée de la diffusion. C'est un magazine qui est uniquement présent en librairie, ce qui est très rare. Généralement, il y a des diffusions librairie et kiosque. Et là, il y a eu une vraie volonté de la part de la revue d'être présente auprès des livres, de toucher un public vraiment qui, justement, fait déjà cette démarche d'aller réfléchir, d'aller trouver des points de réflexion, des points de partage aussi. Et du coup, de ne pas être une revue parmi d'autres, mais de sortir un petit peu du lot. Et c'est vrai que c'est une revue qui, au-delà de la librairie Mola, a un gros succès auprès des libraires, parce qu'on s'y retrouve tous et qu'on a tous aussi des points d'accroche pour... nous-mêmes générer de nouvelles idées d'animation dans nos librairies thématiques ou autres. Donc il y a vraiment des échanges entre la revue et la librairie. Donc pour vous en dire peut-être un petit peu plus sur le journal. Il est important de préciser que c'est un journal indépendant qui s'autofinance, qui n'a aucun soutien politique, groupe de presse ou autre organe financier. Il y a vraiment une volonté d'assurer une indépendance financière qui est intrinsèquement liée à une indépendance de pensée. Et ça, c'est vraiment important pour eux. Et on le sent dans pas mal de leurs articles qui, du coup, abordant la société, abordent la place de l'argent. Et où on voit très bien à quel point, notamment dans l'article pour les financements des campagnes politiques américaines, où on voit la place de l'argent et en quoi l'argent est un acteur majeur de la société du XXIe siècle. Et eux se font fi de justement essayer de se séparer au maximum de l'argent pour ne subir aucune pression et faire les numéros de leur choix. C'est ce qui leur permet, je pense, j'espère qu'il pourra nous le confirmer, de présenter des numéros qui ne vont pas être justement... des fois, qui peuvent être surprenants, en fait. On se dit, tiens, personne ne parle de ça en ce moment, et eux, ils le font. Mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de pression financière qu'ils peuvent se permettre de parler de ce qu'ils veulent et de la façon dont ils le souhaitent. Nous, on a vraiment souhaité faire venir Books dans ce cycle Mola Made in USA, qui a pour but les élections présidentielles américaines, mais où on a eu envie, tout au long de l'année, en fait, de vous proposer de rencontrer l'Amérique sous différents angles. Donc, il y a eu l'angle sociologique, l'angle historique. Là, c'est l'angle journalistique. Alors, pour parler peut-être un peu plus précisément de la qualité de ces deux articles, donc ils ont été écrits, ils ont tous les deux été publiés dans la revue New York Review of Books. Le premier article, Citizen Trump, de Michael Tomasky, est traduit par Arnaud Gancel et date du 24 septembre 2015. Et le second article s'appelle « Démocratie à vendre ». Il a été écrit par Elisabeth Drew, traduit par Philippe Badeau et date du 4 juin 2015. Une de nos questions, justement, c'était un petit peu comment on voit en fait les articles que vous avez publiés, donc datent de 2015.
Oui.
Et donc sont assez intéressants parce que permettent justement de montrer à la fois toute leur actualité et leur pertinence et l'éclairage qu'ils peuvent... nous apporter pour comprendre et en savoir plus sur les élections, et en même temps montre un journalisme qui est capable de mettre à distance aussi une actualité brûlante en imposant une réflexion et une démarche qui est assez intéressante. Alors, première question, c'était... Oui. Comment vous arrivez à faire votre sélection parmi tous les médias qui existent ? Comment vos équipes travaillent ? Et sur ce sujet-là en particulier, pourquoi ce choix s'est porté sur ces deux articles ?
Vous avez compris que Books est un journal un peu du troisième type, pas comme les autres, parce que, pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce qu'on exploite les livres qui sortent à l'étranger et on se donne pour règle de ne travailler qu'à partir des livres et des articles les plus intéressants qu'on trouve à propos de ces livres. Il y a beaucoup de sujets qu'on a envie de traiter, comme tout journaliste, et qu'on n'arrive pas à traiter parce qu'on ne trouve pas les livres ou pas les articles. Par exemple, j'aimerais beaucoup traiter des problèmes de l'école en France. J'ai pas de livre, j'ai pas d'article. J'aimerais beaucoup traiter de... des problèmes de l'Europe. Il n'y a pas de bons livres, il n'y a pas de bons articles qui permettraient de sortir un dossier vraiment à la fois plaisant, excitant, parce que c'est un magazine tout de même, donc il faut prendre son plaisir, mais intellectuellement costaud sur ce sujet. Il y a d'ailleurs, soit dit en passant, j'ai bien vérifié ça, y compris avec des spécialistes de l'Europe. Il n'existe pas de bons livres qui fassent de la bonne pédagogie sur les problèmes réels, les débats réels posés par l'Europe, alors même qu'on est devant le Brexit, etc. etc. Même les Anglais n'ont pas ça. Donc sur les élections américaines, évidemment, on cherchait quelque chose. Mais là, ça nous a été offert, en quelque sorte, par le fait que... l'un des plus grands journaux dont nous nous inspirons, qui s'appelle la New York Review of Books, avait publié une série d'articles écrits par une vétérane, si j'ose dire, du journalisme américain, Donc une femme d'un certain âge, mais qui a à peu près tout vu depuis, et en détail depuis l'affaire du Watergate, et qui, là, en fait, c'était une femme de gauche, et qui... Nous ne sommes pas spécialement un journal... On n'est ni à gauche... On ne sait pas très bien où on est politiquement, la rédaction... Enfin, on essaie de pas trop... on essaie d'être un peu à côté des débats classiques, du clivage classique gauche-droite. Là, en l'occurrence, il s'agissait d'une... une journaliste plutôt marquée à gauche, et qui avait choisi, dans une série d'articles dont nous n'avons reproduit qu'une partie, de s'intéresser au problème des dévoiements du système électoral américain, à tous les niveaux, c'est-à-dire y compris d'abord au niveau du gerrymandering, c'est-à-dire de la... des manipulations des circonscriptions électorales, du droit de vote, des gens qui ont... Il y a selon les États de conservateurs ou les États de gauche, et vont chercher à éliminer, à écarter des urnes des électeurs qui ne leur plaisent pas. Ils y arrivent souvent, assez bien. Et puis la corruption. Et la corruption qui joue aux États-Unis absolument à tous les niveaux. Comme vous savez, toute une partie des emplois publics aux États-Unis procèdent d'une élection, les gouverneurs, etc. Et la corruption joue, elle joue de façon inégale, bien sûr, mais elle joue à peu près à tous les niveaux. Et l'argent joue un rôle fondamental. Et le principal enseignement de ces articles, et d'ailleurs d'autres qu'on a trouvés aussi dans d'autres journaux du même type, dont on a fait donc avec lesquels on a fait ce dossier, c'est que d'une façon inédite dans l'histoire des États-Unis, les milliardaires, qui, comme vous le savez, ont beaucoup cru en nombre et en puissance ces dernières années, c'est le fameux 1%, mais c'est le 1% du 1%, ou le 1% du 1% du 1%, et les milliardaires sont... Enfin, il n'est plus possible de devenir candidat à une élection présidentielle américaine sans être appuyé par au moins un milliardaire, un vrai milliardaire. Voilà, c'est plus possible. Et donc tous les candidats qui étaient en lice à l'époque où nous avons... où les articles que nous avons publiés ont été publiés, c'est-à-dire en août 2015, tous les candidats qui étaient en lice étaient chacun d'eux, et il y en avait beaucoup, étaient chacun d'eux appuyés par au moins un milliardaire, et souvent par plusieurs. Et c'est aussi vrai à gauche qu'à droite. Hein. Il ne faut pas croire que ce soit le cas uniquement des conservateurs. Hillary Clinton est appuyée par plusieurs milliardaires, et elle n'en serait pas là où elle est si elle n'avait pas l'appui de plusieurs milliardaires. Évidemment, nous, on s'intéressait déjà à cette époque. Moi, j'avais compris assez vite, dans la rédaction de Books, on avait compris assez vite que Donald Trump... Contrairement à tous les augures, toute la classe politique et tous les journalistes spécialisés se sont trompés, tous les spécialistes de la politique et tous les politologues et tous les journalistes politiques triés sur le volet se sont trompés. Ils ont tous dit que ce fanfaron allait se planter dès le premier débat. C'est une chose qu'on a compris. On l'a compris assez vite en amont qu'en réalité, ce type-là, c'était un coriace. Et qu'on allait le voir, on risquait de le voir assez longtemps dans le paysage. Donc on s'est intéressé plus spécialement à lui.
Et puis l'association des deux articles est vraiment intéressante parce qu'elle permet de voir justement, c'est presque Trump qui illustre par l'exemple l'article sur les milliardaires en montrant que lui, de par cette indépendance et cette autonomie financière, il peut tout se permettre, en fait.
Il n'a pas besoin de milliardaire, puisqu'il en est un. Mais en fait, alors cela dit, la règle, enfin autant il est vrai que on ne peut plus se présenter aux élections présidentielles américaines sans avoir l'appui d'au moins un milliardaire, autant il ne faudrait pas en tirer la conclusion que l'appui de plusieurs milliardaires suffit à dépasser la barre des 2% d'intention de vote. Ça, alors il y a plusieurs candidats, bien que soutenus par, comme Jeff Bush en particulier, soutenus par plusieurs milliardaires, qui se sont rétamés.
Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point l'argent est un acteur dominant dans ces élections, mais qu'il n'est pas, enfin, ne se suffit pas non plus, et qu'il y a d'autres, d'autres choses qui rentrent en compte, ce qui rend le personnage de Trump plus complexe qu'il n'y paraît aussi finalement.
C'est un personnage complexe, Trump. En réalité, c'est un personnage complexe. C'est un personnage qui peut, qui pour nous les Français bien élevés, etc., qui est jugé à certains égards odieux. Mm-hmm. Mais c'est un personnage complexe et qui. Moi, je ne sais pas, par exemple, si. C'est difficile de prévoir. Je pense pas vraiment qu'il ait de chances d'être élu. Je pense que Hillary Clinton va l'emporter. Il y a toutes les chances qu'il l'emporte. Mais enfin, il faut faire attention parce qu'on s'est déjà tellement trompé sur Trump que tout le monde a l'air de penser que Hillary Clinton va l'emporter. Mais Hillary Clinton n'a aucun charisme. Enfin, pas un grand charisme. Elle est elle-même mêlée à pas mal d'affaires douteuses. Elle n'est pas très populaire. Et tandis que Trump draine un véritable courant de popularité. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si, à supposer qu'il vienne au pouvoir, qu'est-ce qui se passerait ? Et il est possible qu'il ne se passe pas grand-chose. Parce que pourquoi ? Parce que c'est aussi un autre sujet que d'ailleurs on n'a jamais vraiment réussi à traiter dans Books, on l'a traité par la bande, etc. C'est que dans les démocraties actuelles, celui qui arrive au sommet de l'État se trouve immédiatement corseté par toute une série de forces qui tiennent à la puissance de l'administration, quand même aux lois, aux habitudes, etc., qui font que finalement sa marge de manœuvre n'est pas très grande. Alors, c'est pas. Et je pense que c'est d'autant plus vrai qu'on est dans une vieille démocratie. C'est moins vrai pour une démocratie jeune, comme par exemple en Hongrie ou en Pologne, où là, effectivement, des nouveaux venus dans le paysage politique peuvent. Changer la donne de manière assez significative. Est-ce que Trump aurait la marge de manœuvre nécessaire pour vraiment changer les choses de manière significative ? Personne n'en sait rien, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr.
Surtout qu'il y a un paramètre important, c'est qu'avec les élections présidentielles, si je me trompe pas, il y a les élections du Congrès qui vont arriver, et on l'a bien vu pour le second mandat d'Obama, c'est que 4 années avec un Congrès qui n'est pas dans le même courant politique, ça vient quand même mettre à mal bon nombre d'objectifs. Oui. Donc s'il s'avérait qu'il était élu, peut-être qu'il y aurait réaction au niveau du Congrès et que ça ferait 4 années vraiment, vraiment blanches pour le coup.
Et Trump, il y a une époque de sa vie où il soutenait les démocrates. Alors c'était son intérêt financier largement, mais c'était en raison de ses. Mais enfin, il a soutenu les démocrates. Il a, dans certains cas, pris des positions qui étaient plutôt des positions de gauche. Et puis, ça a beaucoup varié. Fondamentalement, c'est quand même un homme d'extrême droite. Bon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais en même temps, c'est un homme très intelligent. Et on le voit, il a écrit un livre. Il ne faut pas oublier. L'expérience montre que les hommes politiques qui surprennent, ils ont souvent écrit un livre, et il est important de le lire, le livre en question. Mmh. Les gens tous les hommes politiques qui ont laissé une trace dans l'histoire avaient écrit au moins un livre, et rétrospectivement on se rend compte que la lecture du livre en question permettait de bien comprendre d'assez bien comprendre l'homme en question. Enfin, c'est vrai pour Hitler, naturellement, mais c'est vrai,
c'est vrai pour
beaucoup d'autres. Et dans ce livre, que je n'ai pas lu, mais dont j'ai lu des extraits, Trump explique, par exemple, un peu comme Hitler le faisait dans Mein Kampf, d'ailleurs, de façon assez subtile, les techniques de persuasion qu'il est bon d'utiliser pour rallier le bas peuple assez décent.
C'est une des questions qu'on se posait, peut-être que vous allez pouvoir y répondre. C'était justement cet étonnement en fait, que l'on a de notre point de vue sur les Américains. Comment, On peut penser, après tous les dérapages médiatiques et après justement ce jeu un petit peu des codes autour de son image, comment il peut arriver à convaincre, sur quoi ça se joue et est-ce que les médias ont un rôle là-dedans ?
Les médias ont un rôle assez marginal, finalement. Enfin, pour autant que je puisse en juger... Enfin, les médias ont souvent un rôle important. Ça dépend de ce qu'on appelle les médias. Un débat à la télévision, bien sûr, c'est un média. Et là, Trump est très fort. Mmh. Et donc il convainc par la parole. Il convainc par sa faconde, par le fait qu'il n'est pas comme les autres, qu'il donne le sentiment de dire ce qu'il pense. C'est un orateur, c'est un vrai orateur. Donc il paraît souvent moins hypocrite que d'autres gens. Ça, c'est un point très fort parce que aujourd'hui, le monde politique, l'establishment politique, que ce soit aux États-Unis ou en France, paraît tellement engoncé dans des rituels rhétoriques que... Il y a une perte de crédibilité très forte qui est mesurée, qui est bien établie, qui vaut aussi bien en France, aussi bien en France qu'ailleurs. Hein. Et là, l'homme qui dit, là où la femme, qui donne le sentiment de dire ce qu'il pense, à la limite, c'est pas important de savoir si c'est vrai ou pas, mais le fait de donner le sentiment de dire ce qu'on pense, de réussir à communiquer ce sentiment. C'est une arme redoutable. Il y avait un très bon article qu'on n'a pas reproduit dans le New Yorker, qui est aussi l'une de nos sources, d'un excellent journaliste qui s'appelle Osnos, O-S-N-O-S. J'ai oublié son prénom, parce qu'il a le père et le fils, mais c'est le fils, dont on avait d'ailleurs publié dans un numéro précédent un portrait extraordinaire du nouveau patron de la Chine, Xi Jinping. Et donc ce Osnos a fait un reportage de terrain, justement pour répondre à votre question. C'est-à-dire, ça remontait déjà à l'automne. Donc comment ça se passe, comment il se passe que tant de gens, de milieux sociaux si différents, d'âge, de sexe, etc., différents, puissent se laisser être convaincus, mais vraiment convaincus, et devenir des fervents partisans d'un homme qui, par ailleurs, donne le sentiment de proférer des insanités à longueur de journée. Et en fait, dans mon souvenir, il y a assez longtemps que j'ai lu cet article, mais dans mon souvenir, ce qui m'avait frappé, c'est que, bien sûr, l'électeur moyen, je ne sais pas si ça existe, l'électeur moyen, mais enfin bon, disons, appelons-le quand même l'électeur moyen, aux États-Unis, plus qu'en France, et encore plus qu'en France, je dirais, est profondément ignorant des réalités du monde, des réalités de l'économie, des rouages de l'économie, des questions internationales, des erreurs du passé, en histoire. Il y a une ignorance terrible, absolument terrible. Et donc, quand quelqu'un vient en disant... Dans un état de morosité ambiante, d'inquiétude pour toutes sortes de raisons, commerciales, industrielles, financières, idéologiques, en raison des problèmes du terrorisme, quand dans ce contexte de morosité, quelqu'un vient vous dire moi, je vais redonner de la grandeur à l'Amérique. Moi, je vais faire que de nouveau l'Amérique, la grande Amérique, va vivre de nouveau avec tous les mythes, en charriant tous les vieux mythes américains, hein, du self-made man aussi, de la réussite personnelle, etc., de la liberté par rapport à tous les conformismes. Quand quelqu'un vient dire ça, bah, ça marche. Hein, voilà, c'est ça la force de Trump. C'est aussi ce qui me fait dire, comme je sais que Trump est quelqu'un de très intelligent, c'est aussi ce qui me fait dire qu'il n'est pas absolument certain que s'il était élu président, il serait aussi épouvantable qu'il le paraît à première vue. C'est pas certain. Oui, parce qu'il y a vraiment une stratégie cynique de conquête du pouvoir.
Et dont on voit déjà les évolutions. Enfin, là, plus les primaires avancent, et plus le fait de, de commencer à être le candidat sérieusement envisageable pour le Parti républicain.
C'est très récent quand même.
Oui, c'est très récent, mais on...
Mais vous le sentez.
Je trouve qu'on le sent un petit peu dans le...
C'est vrai qu'il n'a plus... Ça fait peut-être trois
semaines. Quelques semaines, voilà.
Qu'il n'a pas sorti une énorme énormité.
Ce qui m'en a fait prendre conscience, c'est un journaliste justement qui à la radio disait « Tenez, ça fait quelques jours qu'on n'a rien à vous dire de scandaleux sur Trump. » Et on se dit « Ah... »
Il va y avoir un moment décisif, c'est le vote de la Californie.
C'est ça.
Ça, c'est sûr, parce que la Californie, c'est gigantesque. Et puis ensuite, le deuxième moment décisif, ce sera le moment où les délégués se réuniront pour valider la nomination. En ce qui concerne Clinton, c'est fini.
Pour les démocrates, ça sera Clinton. Enfin, il n'y aura pas de Trump qui pose d'autres questions.
Mais ce sera Trump aussi, c'est sûr.
Je voudrais qu'on revienne du coup sur le traitement journalistique, justement.
Oui.
C'est très intéressant de voir, à travers les livres ou les articles, de voir de notre point de vue, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un vrai engouement autour des élections américaines. On les suit beaucoup, on essaie d'avoir des informations au maximum. Avec Internet, maintenant, on peut vraiment avoir justement accès à des journaux étrangers. Est-ce qu'il y a le même emballement du côté États-Unis quand ce sont des élections françaises ?
Non, la réponse, vous la connaissez, je pense. Il n'y a aucun emballement aux États-Unis pour les élections françaises. J'ai une fille qui a été dans un échange familial, comme on fait, etc., qui s'est retrouvée il y a de ça quelques années dans la famille d'un homme qui était professeur de sciences politiques à l'université de New York. Et elle s'est rendue compte qu'il ne connaissait pas le nom du président français. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là. Hein.
Oui.
Et donc, sur les nouvelles de la France, il n'y en a pas dans les journaux, ni à la télévision, ni à la radio. Quand les attentats se sont produits, là, bien sûr, on en a parlé, parce qu'en plus, les Américains étaient sensibilisés à cette question. Mais il fallait vraiment...
Un événement d'une ampleur comme celle-là
pour qu'on en parle. Et donc, alors, si vous voulez, bien sûr, les États-Unis, c'est un pays immense, extrêmement varié. Et bien entendu, il y a des poches culturelles dans lesquelles on parle de la France, dans lesquelles on s'intéresse à la France, etc. Mais c'est vraiment très marginal. Par exemple, la New York Review of Books, dont je parlais, est une revue qui parle souvent de la France, parce qu'il s'intéresse aux auteurs français, que beaucoup d'auteurs de la New York Review sont eux-mêmes francophones. Il n'y a pratiquement pas un seul numéro de la New York Review. Ça sort tous les 10 jours environ, ou tous les 15 jours. Il n'y a pas un seul numéro où il n'y ait pas au moins... un aperçu sur un auteur français, auteur d'idées ou romancier.
Petite question pratique et technique. Comment va la presse aux États-Unis ?
Alors, je ne suis pas omniscient, donc je ne peux pas vous répondre absolument à tout.
Non, mais par rapport au contact que vous avez...
Les grands journaux, parce qu'il y a les grands journaux, il y a les magazines, etc., c'est un monde. D'une façon générale, comme chez nous, la presse est en diminution, la diffusion de la presse écrite est en diminution rapide. En France, en ce moment, elle est de l'ordre de 10% par an, au moins, sur les quotidiens. Alors, je suis la question régulièrement, mais là, il y avait un certain temps, je n'étais pas retourné voir. Le Washington Post était en déroute et il a été racheté par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui est un peu, d'une certaine façon, c'est un peu comme Le Monde racheté par Xavier Niel en France. Hein, c'est un peu le même genre, sauf que c'est encore plus impressionnant puisque c'est Amazon. Et donc, apparemment, on est justement dans un monde qui est un peu antithétique. Vous avez dit que Xavier Niel, c'est les téléphones portables aussi. Donc, c'est aussi un peu le même genre. Donc, j'avais appris il y a quelques temps que parce que j'avais été frappé de constater que le Los Angeles Times a un supplément culturel relativement important. Et je me demandais comment ils arrivaient à financer ça. Parce qu'ils ont des book reviews, par exemple, des critiques de livres, qui sont pas négligeables. Et d'ailleurs, il y a l'un de nos auteurs, qui est un historien, qui est à Dallas, mais qui fournit des book reviews pour le Los Angeles Times. Et j'ai appris, en fait, que très discrètement, c'est aussi Jeff Bezos qui finance, mais alors à fond perdu, le supplément culturel du Los Angeles Times, qui aurait disparu depuis longtemps si ce milliardaire n'était pas intervenu pour sauver la mise. Le New York Times s'est profondément réformé. Il a beaucoup développé ses activités, non seulement digitales, mais vidéo. Et il arrive à équilibrer ses comptes. Il est même légèrement bénéficiaire après avoir été dans le rouge pendant quelques temps. Mais il a aussi beaucoup licencié, c'est-à-dire que les bureaux étrangers du New York Times ont été divisés par X. Par rapport à la grande période, il n'y a presque plus personne. Mais enfin, ils ont quand même réussi à sauver la mise et ils continuent à publier de bons articles. Mais j'ai appris récemment qu'en Europe, le Guardian, qui est le plus grand quotidien européen et l'un des premiers sites mondiaux d'information générale, le Guardian est en très grave difficulté et est menacé en réalité. Donc enfin là on quitte un peu le domaine des États-Unis, sauf que c'est le monde anglophone et que le site du Guardian bien sûr est très présent aux États-Unis.
Oui, puis on voit justement, c'est intéressant parce que maintenant il y a un partage des informations et une interaction entre les pays à ce niveau-là qui fait qu'effectivement un journal peut être diffusé hors les frontières, même si ça ne l'aide pas forcément. Pour Books, vous avez décidé de la diffuser en librairie. Est-ce que pour vous, ça peut être une garantie justement pour vous aider à rester en vie parmi les revues.
C'est vrai que ça fait partie du raisonnement, comme la vente en kiosque diminue, que beaucoup de librairies arrivent à sortir leur épingle du jeu, certaines mieux que d'autres, mais quand même. Donc diffuser Books en librairie, on aurait peut-être un phénomène de vase communicant à terme. Maintenant, j'étais avec les représentants d'Hachette hier, justement. Parce que comme en librairie, Books est considéré comme une sorte de livre, donc on passe par le réseau, le système classique des représentants. Et donc j'étais chez Hachette hier, et ils me disaient, mais nous, à part quelques librairies comme Mola, justement, parce que vous avez de la place, donc vous pouvez le mettre. En fait, pour la plupart des libraires, si vraiment vous vouliez vendre Books et doper les ventes de Books en librairie, me disait-il, il faudrait que vous créiez un format spécial librairie. Que vous créez un format qui soit...
Non, moi, je suis partagée sur cet avis.
Ah, ben, ça m'intéresse.
Je suis partagée parce que... Alors effectivement, après, j'entends la spécificité de la librairie Mola et la capacité d'accueil que l'on peut avoir. Mais moi, je trouve que le point fort de Books, et c'est ce qu'on disait en introduction, c'était que justement... La réflexion que vous apportez, l'omniprésence du livre au sein même de la revue fait qu'elle est tout à fait cohérente à côté des livres et qu'en fait, ce qui la sort du lot, c'est aussi ce format revue-magazine. Et je crois sincèrement, pour voir un petit peu ce qui fonctionne à long terme, en tout cas dans nos rayons, ce format-là est un format qui plaît encore. Les gens aiment pouvoir distinguer... un livre d'un magazine et ce qui est super pour eux, c'est par contre d'avoir un seul endroit et de trouver les deux. Et que c'est pour nous, libraires, une occasion aussi d'associer à travers des thèmes. Enfin, je leur disais que votre revue est pour nous aussi un outil parce que des fois, ça peut faire émerger des croisements justement entre des sciences humaines, de la littérature et que la revue a pleinement sa place au sein de tout ça et que ce format revue permet... au moins en termes de visibilité, de sortir du lot. Donc je ne sais pas si ça changerait quelque chose, mais enfin, j'en suis pas persuadée en tout cas.
Bon, bah, écoutez, c'est une bonne nouvelle. Parce que ce que je leur ai dit, c'est que si, faire ça pour nous, ce serait investir. Et pour l'instant, on est en déficit. Hein, on manque de moyens, on manque d'argent.
Ouais, parce que c'est un travail... très très important quand même que vous réalisez.
C'est assez lourd à faire. Voilà, les frais fixes sont importants. Les frais fixes, c'est-à-dire concrètement les salaires. sont relativement importants par rapport à d'autres magazines, parce qu'effectivement, c'est une machine assez lourde.
Bien sûr.
Et donc, pour l'instant, le modèle économique n'est pas encore stabilisé.
Et est-ce qu'il existe un équivalent de votre travail à l'étranger ? Est-ce que
non.
Dans d'autres pays...
Non, on est les seuls, à ma connaissance.
Parce que je n'ai pas su trouver non plus.
Non, ça n'existe pas. N'existe pas. C'est d'ailleurs une raison pour laquelle je n'ai pas trouvé d'investisseur au début pour créer Books, parce que l'argument des investisseurs était de dire... Ça n'existe nulle part. Donc, il doit y avoir une bonne raison. Donc, allez voir ailleurs.
Mais des fois, on peut avoir la bonne idée aussi, avant les autres.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir eu la patience de venir jusqu'à nous.